On va commencer Bezrat Hashem, notre premier cours sur le chapitre 52. Alors, pour comprendre le chapitre 52, on va faire un petit d'abord rappel historique très rapide de ce que nous avons expliqué dans le chapitre 51 qu'on a fait la semaine dernière en une fois. Comme on l'a fait assez rapidement, donc je voudrais revenir un peu dessus pour expliquer. Dans le chapitre 51, on a expliqué, on a ramené un texte du Zohar. Le Zohar nous dit que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a créé, rappelez-vous, on l'avait expliqué, il y a le combustible et il y a la mèche. Oui. Le combustible, c'est le corps, la mèche et la flamme, ce sont les mitzvot. Sans mitzvot, on ne peut pas tenir. D'accord. Maintenant, la Gemara Zaken s'est arrêtée sur un détail très important la semaine dernière, qui, je pense, est particulièrement d'actualité cette semaine, puisque je vous rappelle, nous sommes pendant les 9 jours, de la destruction du temple. Et donc, finalement, on pleure un endroit qui s'appelle le temple. Et on se pose la question, finalement, qu'est-ce que cet endroit change dans ma vie? En quoi l'arrivée du temple changerait quelque chose dans ma vie? C'est vrai? En quoi ça changerait quelque chose? Alors, on nous dit que, à l'endroit du temple, se trouve la Shekhina. Shekhina, ça veut dire que Dieu réside. Ok. On a posé une question, on a dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de particulier, pourquoi aurait-on besoin d'un endroit, d'un quartier général de la Shekhina? Pour répondre à cette question, on a commencé à expliquer la semaine dernière, on a pris un exemple du corps humain. D'accord? Donc il y avait pas mal de détails, donc je pense que je reviens rapidement. On avait expliqué un exemple du corps humain. Pourquoi on prend un exemple du corps humain? Parce que Kadosh Baruch Hu nous a annoncé que la façon dans laquelle il a structuré le monde ressemble à la façon dans laquelle il a structuré le corps humain. Donc, en étudiant le mode opératoire du corps humain, on peut comprendre aussi, au niveau du monde, comment ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle aussi en français le microcosme, le macrocosme, d'accord? En analysant ce qui se passe dans le corps humain, on comprend ce qui se passe dans le grand monde. Alors, dans le corps humain, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain? Ben, dans le corps humain, on sait que la neshama se trouve dans tous les membres. Ok? Maintenant, cette neshama, d'où elle vient? Est-ce que la neshama a un pouvoir de voir? On a expliqué la semaine dernière que la neshama en soi, elle est complètement abstraite. Et la semaine dernière, on est arrivé à la conclusion qu'il y a trois étapes. Première étape, c'est la neshama avant qu'elle descende dans le corps. Donc elle est abstraite de toute définition. On n'a pas le droit de lui donner une définition. On ne peut pas dire la neshama voit, la neshama entend, la neshama regarde, la neshama sent. Rien du tout. Elle est complètement abstraite, elle est spirituelle. Après, il y a une phase 2, dans laquelle la neshama, elle va entrer dans le cerveau. Vous vous rappelez, on avait parlé du rôle du cerveau? Le rôle du cerveau, c'est là que le rôle du cerveau, c'est la neshama, à ce moment-là, elle va commencer à se matérialiser. Et après, étape numéro 3, c'est, à partir du cerveau, l'énergie de la neshama va être dispatchée dans chaque organe. 3 étapes. La neshama abstraite, la neshama qui se centralise et qui se matérialise dans le cerveau, et après, étape numéro 3, on va dans les membres. Vous comprenez que si on rate ne serait-ce qu'une seule étape, ben c'est comme si tu voulais aller à la finale avant de faire la demi-finale. C'est possible, David? Pas possible. Je ne peux pas rater une étape. Il y a des étapes. Alors, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Il faut passer par l'étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Ok. De la même façon que dans le corps humain, il nous faut 3 étapes, la neshama abstraite, la neshama qui s'intègre dans le cerveau, et après du cerveau, étape numéro 3, elle se dispatche dans chaque membre, qui va exprimer une énergie de la neshama à sa façon, pour voir, pour entendre, pour toucher, pour sentir, etc. De la même façon, dans le monde, ça fonctionne comme ça. Si on devait dire à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut matérialiser à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu en soi est au-delà de toute définition, et vouloir le définir est un blasphème. Chasvei Shalom, on ne peut pas le limiter. Seulement, d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il veut créer notre monde, il veut intégrer notre monde. Donc il nous faut une étape 2. C'est quoi cette étape 2? Cette étape numéro 2 doit correspondre au cerveau. On doit retrouver maintenant le cerveau du monde, le quartier général du monde.
Je peux faire encore
une phrase? Allez-y. Cette étape 2 doit être le cerveau du monde, le quartier général du monde. Et après, on passe à l'étape numéro 3. C'est quoi l'étape numéro 3? C'est qu'à partir du quartier général du monde, tout va dispatcher dans chaque parcelle de ce monde. Quel est le quartier général de notre monde? C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Le quartier général de notre monde, c'est Le Beth Amikdash.
Alors, on n'a pas, il n'y a plus.
Bah, attendez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme il nous manque quelque chose à l'étape numéro. Comme il nous manque quelque chose, tenez, mes survêtres. Comme il nous manque quelque chose. Comme il nous manque quelque chose à l'étape numéro 2, d'accord ? Vous voulez une assiette ? Voilà. Mettez-vous à l'aise. Comme il nous manque aujourd'hui l'étape numéro 2, donc automatiquement, notre étape numéro 3 ne peut pas être parfaite. Est-ce que Dieu peut être partout aujourd'hui ? Il a du mal. Il est partout, mais il a du mal à être présent partout de façon dévoilée. Pourquoi ?
De façon dévoilée.
Bah oui, pourquoi ? Parce que le quartier général n'est pas là. Le quartier général n'est pas dévoilé. C'est ce qu'on va dire le pauvre. Chapitre 52. Ok. Kumo chez Benishmat Adam. De la même façon que dans l'âme de l'homme. Ikar Gilou Iklalut Achayut Bemochin. Dans la Neshama de l'homme, la principale révélation de la vitalité se trouve dans le
cerveau.
Hazak. Chol Aivarim, tous les membres. Mais Kablim, Or Vekoach Levat, Ameir Laem, Imekom. Et les autres membres vont recevoir l'énergie qui va leur être transférée depuis le quartier général qui est le cerveau. Très bien. Alors il dit, car Hamamash, il en est exactement de même. On tourne la page, on est à la page 400. Car Hamamash, il en est exactement de même. Al Derech Mashal, si on pouvait donner l'exemple. Ikar Glalut Achayut, Amshachat Achayut, Lachayut Al-Moderum Shebaem, Umelubash, Venichal, Birtsono, Vechomot, Vedato, Ibarre, Nikra, Veshem Mochim. Maintenant, avant de parler du Beth Amikdash, il faut d'abord que je parle de l'intellect de Dieu. On doit chercher un quartier général, et ce quartier général chez l'être humain s'appelle l'intellect. Alors si je vous pose la question, vous n'allez pas trop vous casser la tête pour trouver la réponse, normalement vous allez la trouver tout de suite. Si je vous pose la question, je cherche un quartier général de Dieu qui est lié à l'intellect. C'est quoi d'après vous ?
Le cerveau.
T'as compris, mais pour Dieu, c'est quoi ?
Ah, c'est pas les gâches.
Attendez, cerveau. Qu'est-ce qui est avec Dieu lié au cerveau ?
La
Torah. Non, Dieu.
Divine.
Dieu. La Torah.
La Torah.
1-0.
Bah oui.
Bah oui.
Hein?
Faut égaliser là. Alors. Moi je vous ai donné la passe décisive, vous faites rien. Là. C'est quoi ça?
Pas de nom.
On est dans la Torah là. Donc, je reprends. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu te donne l'intellect. Parce que rappelez-vous, l'intellect, c'est le quartier général de l'être humain. De la même façon, quel est le quartier général d'Hachem? On va arriver au Beth Amikdash. Mais déjà, quel est le quartier général? C'est lié à l'intellect. C'est quoi l'intellect? C'est la Torah. C'est ce qui explique pourquoi la Torah, c'est le centre du monde pour un juif. Et ça choque beaucoup de monde. Je vais vous dire honnêtement, ça choque beaucoup de monde. Il y a des gens qui disent, je comprends pas, pourquoi on met la Torah partout? Partout, ils nous mettent la Torah. Je veux bien que tu mettes la Torah à la synagogue. Je veux bien que tu mettes la Torah pour une mitzvah. Alors, quand je serai de faire mes affaires, elles sont tranquilles. Je suis en train de dormir, tu me colles la Torah. Je vais aux toilettes, tu me colles la Torah. C'est vrai qu'il y a de la chose partout. D'accord? Je veux marcher, que tu me colles la Torah. Je veux me lever, tu me colles la Torah. Je veux faire des affaires, tu me colles la Torah. Pourquoi tu me colles la Torah? Pourquoi la Torah est le centre de tout? Là, viens te dire. Vouloir faire l'économie de la Torah, c'est comme une personne dirait, pourquoi tu me parles du cerveau? Mon pied a envie de me fonctionner sans le cerveau. Qu'est-ce qu'on lui répond à celui-là? Impossible. Sans cerveau, pas de pied. Sans cerveau, pas de main. Sans cerveau, pas de Dieu. De la même façon, sans la Torah, t'as pas de monde. Tu ne peux pas fonctionner dans ce monde.
Mais avant,
oui.
Je vais nous parler.
Vas-y.
Il y en a qui arrivent de temps en
temps. Non, je n'ai pas. La Torah doit être là.
Oui.
Après, il y a des fois, c'est comme je te dirais par exemple, peut-être que ton pied, peut-être qu'il n'est pas au courant qu'il y a un cerveau qui s'occupe de lui. Mais ça ne change pas que le cerveau s'occupe de lui. Tu comprends? Je donne un exemple. Imaginez une personne, par exemple, qui n'a pas connu ses parents. D'accord? Et il a grandi comme un sauvage. On lui dit, c'est qui tes parents? Il dit, j'ai pas de parents. Tout est né, Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit, écoute, baba, c'est pas possible que t'aies pas de parents. Si ta mère, elle t'a raconté que t'es né avec le... Bon, ta mère, elle t'a raconté ce qu'elle veut. Mais c'est pas possible, hein? Bah oui, t'es pas sorti d'une part. C'est pas possible, d'où il sort ce gosse? J'étais avec un ange. Mais quel ange? Y a pas d'ange. C'est pas un ange, c'est une personne avec qui elle est partie. D'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ?
D'accord.
Ça veut dire que c'est pas parce que tu ne connais pas la source de quelque chose qu'elle n'existe pas. De la même façon, si une personne dit « je crois pas en Dieu », oh ben d'accord, tu crois pas en Dieu, dis que tu crois pas. Exactement. C'est pas parce que tu crois pas en Dieu, tu dis que tu crois pas en Dieu, que c'est pas Dieu que t'as créé. Ok. Revenons, on va avancer. Donc, ce que je veux dire par ici, c'est que la Torah est incontournable. Ok ? La Torah est incontournable. Alors, on y va. Donc, ve gilu klalut amshachazo, ve en amelubashim be Torah mitzvotah. Je suis au milieu de la page 400. Donc, ça fonctionne par l'intellect qui est la Torah. D'accord. Ve gilu klalut amshachazo, ou mekor achayut vacharlamot mekablu, kol echad upratut, rak ahara mitpachetet ou meiram makorze. Maintenant, du cerveau, de la Torah, tout devra être dispatché. Dispatché dans le monde. On va expliquer tout, ne vous inquiétez, tout va être clair. Kedimion, or amit pachet ma shemesh al derech machal, ve kochot aguf et varé aguf ma moach anal. En fait, après l'exemple qu'on pourrait donner, c'est comme le soleil. Vous avez un soleil. Le soleil éclaire qui ?
Tout le monde.
Il éclaire qui le soleil ? Il va éclairer les bons ou les mauvais ?
Tout le monde.
Indifféremment. Ça veut dire, il dit, moi j'éclaire. Après, si toi tu vas utiliser ma lumière pour faire des bonnes choses, tant mieux. Si tu vas utiliser ma lumière pour faire des bêtises, tant pis, mais elle va t'éclairer quand même. De la même façon. Tout à l'heure, on t'a posé la question, Serge t'a posé la question, t'as dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ne respectent pas la Torah ? Quelle est la réponse ? La réponse, c'est qu'Hachem a dit, moi j'allume la lumière. Moi je crée le monde. Le monde est là. Celui qui veut l'apprendre, il apprend. Et il sera récompensé. Celui qui ne veut pas l'apprendre, il apprend pas, il sera puni. Mais le monde ne fonctionnera de toute façon. Pourquoi ? Parce que lorsque tu allumes la lumière, tu allumes la lumière pour tout. D'accord ? On amène souvent cet exemple dans la chassidou, dans la Kabbalah. C'est, voilà, tu allumes une lumière, elle va éclairer les bons, elle va éclairer les mauvais. Elle va éclairer, par exemple, c'est une question que pose le Baal Shem Tov. Il dit, est-ce que le soleil éclaire moins une poubelle qu'un palais ?
Pareil.
Mais kiff. Poubelle ou un palais ? C'est le même soleil, c'est la même lumière, il éclaire. Si toi tu veux faire en sorte que le soleil va éclairer une poubelle, ben il va éclairer une poubelle. Donc la question n'est pas est-ce que Dieu va éclairer ? La question est quel support serais-je ? Est-ce que je suis une poubelle ? Est-ce que je suis un palais ? De toute façon, le soleil va éclairer. Donc reprenons nos étapes. Au début, l'énergie divine est abstraite. Étape numéro 1. Étape numéro 2, on va arriver au Beth Amikdash, pour l'instant on parle de la Torah. Étape numéro 2, tout passe par la Torah. Vous savez que la Torah, c'est le plan divin. Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a regardé la Torah. Les gens pensent que la Torah est un mode d'emploi. Bon, c'est un mode d'emploi. Non, c'est pas un mode d'emploi. La Torah, c'est l'outil avec lequel Hachem a créé le monde. Tout passe par la Torah. C'est comme le cerveau humain. Tout passe par le cerveau. Sans le cerveau, t'as rien. Tu peux pas marcher, tu peux pas parler, tu peux pas voir, rien. Chas v'shalom. De la même façon, sans la Torah, s'il n'y avait pas la Torah, le monde n'aurait pas tenu. Oui.
Poser la question que, bon. Donc on si pourrait... on n'avait pas eu la Torah, est-ce que, alors,
je vais vous dire quelque chose. Comment ? Lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas encore donné la Torah.
Regardez.
Qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il a fait une condition avec la planète. Toutes les planètes. Il leur a dit, écoutez, je vous crée sous condition. Un jour, je vous dis pas quand, un jour, je proposerai la Torah avec laquelle je vous ai créé. Un jour, je la proposerai au peuple juif. S'ils diront oui, notre projet continue. S'ils diront non, je ramènerai le monde au stade de Tohu Bohu. Tohu Bohu. Et c'est pour ça que le pasouk nous dit dans le Tehilim, il y a tout un psaume qui décrit l'événement des 10 commandements, l'événement du don de la Torah. Et là-bas, le psaume, il dit, Eretz Yara Veshakata. La terre a eu peur, elle s'est calmée. La Gemara pose la question, elle dit, si elle a eu peur, qu'est-ce qui l'a calmée ? Si elle était calme, pourquoi elle a eu peur ? Et la Gemara explique, elle dit, de quoi elle a eu peur ? Parce que la terre connaissait cette condition. Donc dès qu'elle a vu qu'on a mis la montagne sur les Juifs, on leur a dit, vous acceptez ou pas, la terre a tremblé. Vont-ils dire oui ?
Tu parles de la terre comme si c'était quelque chose qui vit.
Bien sûr, bien sûr, c'est-à-dire. Bien sûr.
Comme si c'était quelque chose qui interagit, qui
communique. Évidemment. Bien sûr, la terre communique avec Dieu. C'est pas un élément inerte, c'est un élément qui est vivant.
C'est pas une pierre.
Non, même une pierre est vivante. C'est une autre forme de vie, mais c'est vivant. Tout ce qui existe est vivant. Et donc c'est pour ça la planète a eu peur. Et après elle s'est calmée. Pourquoi elle s'est calmée ? À quel moment elle s'est calmée ? Pourquoi elle s'est calmée ? Parce qu'ils ont dit oui. Dès que j'ai dit oui, elle s'est calmée. Eretz Yara, Veshakata, Teilim. D'accord? Donc, ce que je veux dire par ici, c'est qu'on voit clairement que tout tourne par, tout passe par la Torah. Indéniable. Tout passe par la Torah. Okay. Alors, ça, ça explique beaucoup de choses. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Des gens qui ne comprennent pas pourquoi on a besoin de passer par la Torah. Ils disent, moi, quand j'ai besoin de problèmes liés religieux, je vais à la synagogue, je parle avec le rabbin, je parle avec la Torah. Et quand c'est des problèmes qui n'ont rien à voir avec la religion, je ne fais pas appel à la Torah, je n'ai pas besoin de la Torah. Je fais appel à un docteur, je fais appel à un avocat, je fais appel à un psy. Je dois faire appel à un docteur, je fais appel à un avocat. Mais il faut que tu saches que la Torah, son mot est dit sur tout. Tout passe par la Torah. Après, la Torah te dit, il va voir le docteur, la Torah te dit, il va voir ça. Mais ça passe par la Torah. On va avancer un peu. Alors, il dit maintenant, ou mes corsés, je suis donc à la page 401, ou mes corsés, ou anikra, alma deid galia, ou matronita ve imatata ushrina, milashan ve shachanti betoran. Maintenant, cette source de vitalité qui est la Torah, on l'appelle par plusieurs noms dans le Zohar, des noms que vous avez peut-être déjà entendus, mais là je vous les donne maintenant. On l'appelle par exemple alma deid galia, le monde dévoilé. On l'appelle aussi par exemple matronita. D'accord, matronita, ça veut dire la mère. On l'appelle aussi la Shechina. Et là, j'arrive à la Shechina. C'est quoi Shechina? Shechina, c'est présence. Maintenant, c'est quoi la présence? Ça veut dire quoi la présence?
Ça veut dire que...
Attendez, j'ai... des fois, tu rentres dans un endroit, tu dis, dans cet endroit, je sens la Shechina. Shechina en hébreu, ça veut dire quoi?
Ça veut dire voisin.
Soyez dit, comment vous traduisez Shechina?
C'est quelque chose qui existe, je ne sais pas
le
traduire.
Alors, je vais vous dire le problème que j'ai avec le mot Shechina. C'est que tu peux pas dire que Shechina, ça veut dire présence. Parce que Dieu est présent partout.
Ouais.
Donc tu peux pas dire là il y a la Shechina, là il y a pas la Shechina. Ouais. Alors qu'est-ce que tu dois dire?
Je sens la Shechina.
Shechina, c'est plus qu'une présence. Shechina, c'est une présence dévoilée.
Ouais.
Ressentie. Tu vas voir un tzadik, tu vas au El du Rabbi, tu vas voir un tzadik, tu vas dans un kever, tu vas au côté de la Maharavi, tu sens la Shechina. Tu sens ça. Tu sens la Shechina. C'est quoi la Shechina? C'est pas que tu dis Dieu est là. Dieu est partout. Dieu est même dans les poubelles. Dieu est partout. Ah oui, c'est la réalité. Seulement, je sens la Shechina. Je sens la présence divine. Ah, là, on va commencer à s'approcher du Beth Amikdash. C'est-à-dire maintenant, on comprend que quel est le quartier général du monde, c'est la Torah. Et quel est le but? Shechina. Shechina veut dire quoi? Résider. C'est pour ça que, avant de parler du Beth Amikdash, vous savez qu'on a plein de, on essaye de reproduire ça comme on peut, en exil. On a par exemple des synagogues. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans une synagogue? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans une synagogue? Pourquoi une synagogue, c'est un endroit spécial?
C'est particulier
dans une
synagogue.
Hein? Oublie, et alors? Mais attendez, même si c'est Sefer Torah, alors c'est un Sefer Torah. Et alors c'est un Sefer Torah. Et si je prends un Sefer Torah, je l'amène chez moi. D'abord, qu'est-ce qu'il y a de particulier si c'est un Sefer Torah? Et alors c'est un Sefer Torah. Ça fait quoi, c'est un Sefer Torah? C'est un parchemin. Ça fait quoi? Parce que, avec le Sefer Torah, qui, c'est certes, est un parchemin, mais un parchemin saint. Et un endroit qui est destiné pour prier, pour étudier, etc. Dans cet endroit, on essaye de recréer un petit peu. Exactement. On appelle ça un petit Beth Amikdash. Un endroit dans lequel, pas Dieu est présent. Dieu est présent partout. Dieu est présent même dans l'église. Je m'excuse de parler, bien sûr. Dieu est partout.
Même dans les mosquées.
Partout. Il n'y a pas un endroit dans le monde dans lequel Dieu n'est pas là. Seulement, on va créer des endroits dans lesquels non seulement Dieu est présent, Dieu est ressenti. Alors évidemment, on est très très loin, parce qu'on essaye de faire reproduire un petit peu des choses, mais évidemment, on est à des années-lumière de ce qu'on devrait ressentir. C'est une chose extraordinaire. D'accord? Ok, on va avancer un petit peu. Ushrinam ilashan v'shachanti betoham. Alchem. Chez mes corzés, ou Réchit, Idgalut, Orensof, ou mes Idlolamot, Prinat, Giloui. Et donc, c'est quelque chose qui est dévoilé. Ou mes corzés, j'accélère, hein, parce que je rentrais surtout dans les. Ou mes corzés, je suis à la page 401. Nimchar, Lechol, Echad, Aor, Vechayut, Prati, Araoulo. Et c'est de là que va venir à chacun l'énergie qui lui correspond. Vechochen, ou Miklabesh, Betoham, Leachayotam. Et qui va résider dans chacun pour le faire vivre. C'est-à-dire que tout passe par la Torah. Ça passe par la Torah, et ça se dévoile progressivement, et ça rentre de façon ressentie. Vous savez, je veux pas parler de foot, mais tout à l'heure, dans la voiture, j'écoutais les infos. Et dans les infos, je sais pas si c'est encore aux Champs-Élysées là-bas.
Non,
d'accord.
L'Élysée.
Bon, très bien. Alors, très bien. Bon, peut-être qu'il y en a qui suivent. Si tu veux le tenir, c'est mieux. Alors. Hein? J'entendais, je sais pas, il y a un truc qui m'a marqué. J'entendais, à un moment dans la voiture, dans les babes de la voiture, j'entendais. Comme ça. Et personne ne parlait. Je me dis, bon, peut-être que c'est pas la bave a un problème. après, t'entends le commentateur qui dit, voilà, on voulait pas altérer ces grands moments. D'accord, c'est grand moment, il a appelé ça. Oui. Alors je vais vous dire, moi, grand moment, pour moi, c'est pas un grand moment. Bon, ça m'a pas spécialement parlé. Mais je me suis dit,
c'est l'approche de
magie. Non, mais voilà, je me suis dit, imagine-toi, regarde comment des gens qui, parce que finalement, qu'est-ce qui crée le grand moment? C'est l'attente. Ouais. C'est vont-ils, ça va marcher ou ça va pas marcher? Ils vont réussir ou pas réussir? Étape 1, étape 2, étape 3, etc. Ouais, ouais. Ils vont arriver ou pas arriver? Ils sont à l'heure, ils sont pas à l'heure, ils vont, etc. Et ça crée une attente.
Ça chauffe.
Et après, tu vois, quand ça arrive, tu vois que il y a une énergie qui est là. Et je me suis dit, l'Avdil, bien sûr, l'Avdil, parce que ça c'est éphémère, ça. Ça va durer le temps de, je sais pas...
Mais la Torah est éternelle.
Voilà. Mais la Torah est éternelle. Imagine-toi, je t'arrête d'imaginer, imagine-toi maintenant, Mashiach arrive.
C'est ça. Ça, c'est tout le temps.
Ça, c'est une partie.
Toutes les chaînes du monde,
la même chose,
ils retransmettent en direct, en live, depuis Jérusalem.
Ça, c'est tout le temps.
Ça va venir. Hein, tout en live. Ça, tu tournes les chaînes, n'importe laquelle, tu tombes dessus. Il y a ça, ma chère Réla, il n'y a rien à faire. Elle m'a la saute. Vous imaginez? Et tu vois comme ça tout le monde, comme ça. Vous imaginez? Et là, c'est du sérieux, là.
Ben oui.
Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on parle de Shrina. C'est quoi Shrina? Shrina, c'est pas la présence divine. Shrina, c'est la présence divine ressentie. Ressentie au point que tu le touches, c'est palpable. Je le touche, je le sens, c'est là, c'est ici. C'est extraordinaire, c'est énorme. Ça, c'est la Shrina. Il y a des endroits dans le monde dans lesquels la Shrina est plus forte. Il y a des endroits dans lesquels vous croyez qu'ils sont saints, mais ils ne sont pas saints. Je vous donne un exemple très simple. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du Mont Sinaï? C'est quand même important, le Mont Sinaï. Le Mont Sinaï, c'est l'endroit où on a reçu la Torah. Dieu s'est dévoilé à la terre. Qu'est-ce qui reste du Mont Sinaï aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste du Mont Sinaï?
Il reste le Mont Sinaï.
Le Har Sinaï, aujourd'hui, d'abord, il y en a qui savent où c'est, il y en a qui savent pas où c'est. D'accord? C'est les suppositions. Et je vais vous dire, même si on savait où c'est écrit clairement dans la Gemara, elle m'a mené de le dire, clairement, que le Mont Sinaï n'a aucune doucha.
Ah, en plus.
Aucune doucha. Aucune sainteté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la Shrina là-bas.
Pourquoi?
Parce que il y a que certains endroits dans le monde qui ont cette capacité que Dieu descend en eux et que la Shrina reste là-bas. Notamment, et là j'y arrive, notamment Jérusalem, le mont du Temple. Le mont du Temple, on dit que depuis que la Shrina est descendue, Shrina lo zaza mimekoma.
Ah, elle est pas partie de
la Shrina ne quittera jamais le Beth Amikdash. Et même si tu casses les murs, d'abord il nous reste un mur, Baruch HaShem, et même si Chas v'Shalom il n'y a pas ce mur, la Shrina ne quitte jamais sa place. C'est pour ça qu'il y a une tellement grande doucha. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous savez, c'est pour ça que même, au passage, c'est compliqué aujourd'hui de... Ah oui, non, mais ouais. C'est, d'abord, c'est pour ça qu'ils se battent pour ça.
Ouais.
Et c'est même compliqué aujourd'hui d'aller dans le mont du Temple, en royaume des Arabes. D'abord, c'est compliqué parce que c'est dangereux.
Ouais.
D'accord. Et en plus, c'est compliqué à l'arrivée, parce qu'on ne sait pas exactement où se trouve l'endroit du Kodesh et du Saint des Saints, etc. Et la Shrina n'a pas quitté l'endroit. Même si on t'installe une mosquée, la Shrina n'a pas quitté l'endroit. Après, t'es...
C'est vrai qu'eux, ils sont là-bas. Ils sont là-bas et ils sont là-bas.
Moi, je veux te dire quelque chose. Ça fait quelques semaines que j'étais en Israël. Tu veux juste ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ça? Ce que j'ai ressenti, c'est que c'est un rappel constant qu'on est en exil. C'est un rappel constant qu'avec tout ce qu'on a fait, et ben, au prochain, on a un beau pays. Et ben, au prochain, on a des très belles infrastructures.
Ouais,
j'ai découvert. Ça veut dire qu'en l'espace de quelques années où j'étais pas en Israël, j'ai vu des immeubles qui ont poussé, des rues.
Ah, oui,
des, d'où est sortie cette rue? Des endroits où j'étais pendant 2 ans là-bas. Tu sors, il y a une rue, il y a un nouveau quartier.
Un quartier,
tu vois. Et alors, je marchais, je dis ah, mais je me rappelle ici, il y avait une forêt. Il n'y a plus, il y a un quartier maintenant. Donc, bon, Hachem. Et après, tu arrives au côté, tu vois. Et là, ça te rappelle que tu as beau faire ce que tu veux. Ma chère, tu n'es pas là. Ça s'approche. Il n'est pas.
C'est l'infrastructure d'abord.
Je ne connais pas les plans de Dieu. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on s'approche. On s'approche. C'est ce qu'il veut te dire ici. C'est quoi Shrina? Veshachanti betocham, c'est lorsque Akadosh Baruch va résider en nous. Comment il va résider en nous? Il va résider en nous de façon dévoilée. Et le seul endroit dans le monde dans lequel on ressentait la Shrina de façon dévoilée, c'était où? C'était le Beit Hamikdash. Vous savez qu'il y avait une mitzvah, trois fois par an, de pèleriner. Et lorsqu'on allait pèleriner, on disait qu'on allait pour deux choses. L'Irhot ou les Héraot. Pour voir et pour être vu. Voir quoi? La Gemara a des descriptions extraordinaires dans la Gemara qui dit que toute personne, même une personne qui avait fait des fautes toute l'année, qui avait fait les 400 coups, dès qu'il venait au Beit HaMikdash, il ne pouvait pas ne pas ressentir. Il y avait une Shrina qui était palpable. Et d'ailleurs, quand je lis ça, je me dis, mais je me demande, mais comment il fautait? C'est que le Ressara va être plus fort. Ça veut dire que c'est pas tu vas dans un endroit où on te dit un jour il y avait ici une bâtisse. Tu vas, tu sens. Mamash, Shrina. Ça veut dire que le quartier général de la Shrina dans le monde se trouve au Beit HaMikdash, au mont du Temple. Donc je reprends. Akadosh Baruch Hu, à la base, c'est abstrait. Après Akadosh Baruch Hu, il décide de matérialiser ça. Ça passe par l'intellect. C'est quoi l'intellect? La Torah. Et quel va être le quartier général du monde? Quartier général du monde, ça va être le Beit HaMikdash. Et si vous remarquez, vous savez que le mont du Temple, tout a démarré du mont du Temple. Ils se battent encore dessus aujourd'hui, mais tout a démarré. Par quoi, la Gemara pose la question, elle dit, par quoi le monde a été créé? Comme Dieu, quand il a créé le monde, par quoi il a commencé? Par quelle partie il a commencé? Vous savez, c'est quoi? Par quelle partie Dieu a commencé?
Par l'homme.
Vous croyez juste qu'il a appuyé sur un bouton et pack, ça a sorti? Non, l'homme, c'est le sixième jour. Quand il a créé le monde, quel est le point de départ? C'est comme un champignon, quel est le point de départ? Le point de départ, exactement, c'est la pierre angulaire, Even Ashtia. Pierre angulaire du Beit HaMikdash, qui est toujours là. D'accord? C'est une pierre, c'est de cette pierre que tout a démarré. Lorsqu'on a construit le temple, lorsque déjà Abraham, il a sacrifié son fils, où il a sacrifié?
Là-bas.
Adam connaissait cet endroit, il était là-bas aussi. Yitzhak, il est passé par là-bas aussi. Yaakov, c'est là-bas qu'il a dormi, qu'il a fait le rêve. D'accord? Tous! Noah, il est passé. Noah, son histoire, les offrandes qu'il a offertes, c'était là-bas. Tous! Tout le monde est passé là-bas, sauf Moïse. Moïse n'a pas pu rentrer en Israël. Tout le monde est passé par. Quand lorsqu'on a construit le Beit HaMikdash, à un moment, ils ont voulu déplacer la pierre. Il y a une pierre, une très grosse pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont déplacé. Bien sûr, elle a bougé. Lorsqu'ils ont déplacé la pierre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de l'eau qui a commencé à couler. Un jet d'eau qui commence à couler, impossible de l'arrêter. C'est raconté ça dans la Bible. Et ils ont fait des prières et des prières et des prières parce que c'est l'endroit duquel tout a démarré. Et des jets d'eau très 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 forts. Ils étaient en train d'inonder toute la montagne. Ils étaient en train de tout casser, vous savez, l'eau. Ils ne savaient pas quoi faire. Et à un moment, ils ne savaient pas quoi faire. Le roi Salomon a prié à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, écoute, à Kadosh Baruch Hu. Donc ils ont essayé, ils ont fait des prières, fait des trucs, ça ne marchait pas. À un moment, le roi Salomon, il dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, écoute, à Kadosh Baruch Hu, moi pour mon mérite, peut-être j'en ai pas, mais pour mon père. Pour mon père, pour son mérite, pour le. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, ok. Et l'eau s'est arrêtée. On a reposé la pierre. Après, c'est resté comme ça. La pierre, l'endroit de la pierre, c'est exactement l'endroit dans lequel se trouve le Saint des Saints. Kodesh HaKodeshim. L'emplacement du Kodesh HaKodeshim, c'est exactement l'endroit de cette pierre. C'est le centre du monde. D'accord.
Mais elle est dans la mosquée.
C'est
pas ça qu'on voit.
C'est long, là. A priori, la pierre qu'il y a dans la mosquée, elle est virtuelle. Enfin, elle est fictive, celle-là.
Hein?
Quoi?
Tout le temps.
Descends
de côté.
Oui. La vraie pierre, vous la voyez pas.
Elle mesure 18 mètres de long.
Non. La vraie pierre, vous
la connaissez pas.
La vraie pierre, a priori, elle est cachée.
Ah, c'est pas ça.
Elle a été camouflée. C'est le centre du monde.
Un bloc de pierre.
L'idée de la première pierre,
c'est
quand on construit quelque chose n'importe où.
Oui, la peau est la première pierre.
Il y a la symbolique.
La peau est la première pierre. C'est vrai.
On va mettre la première pierre. Mais tu me disais d'où ça venait.
Bien sûr, tout est démarré d'une première pierre.
La même, mais en quatre fois.
Je demande d'où ça vient, l'idée de la première pierre. Ils boivent un coup. Descends, on va là. Je vais dans le coup.
Tu prends ta place, tu
fais.
Des petits fours.
Ok. Alors, donc vous voyez, ce que je veux montrer par ici, c'est que, et d'ailleurs, c'est pas un hasard, si vous voyez, Jérusalem, depuis la nuit des temps, ça a toujours été une source de conflit pour tous les peuples, de façon incompréhensible. Prenez par exemple les croisades. Mais qu'est-ce qui leur manquait? Qu'est-ce qui leur manquait? Ils avaient des superficies énormes. Ils sont venus pour se battre pour aller où? Jérusalem. Les conflits d'aujourd'hui tournent autour de quoi? Tournent autour de quoi les conflits d'aujourd'hui? Toujours encore une fois autour de Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi c'est autour de Jérusalem? Qu'est-ce qu'on a trouvé avec Jérusalem? Mais qu'est-ce qu'il y a avec Jérusalem? C'est plus que le pouvoir. Parce que Jérusalem, c'est le centre du monde. Et même s'il y a des juifs qui disent, moi je suis athée, moi j'y crois pas, les goyim ils te le rappellent. Ils disent, on va se battre nous pour Jérusalem. C'est clair, c'est une réalité. Et quand tu prends l'actualité, tu dis, il n'y a pas une semaine, ça va se repartir encore, j'espère que tu les aides, d'accord? Ouais, et vous verrez, ça va toujours tourner autour de Jérusalem. On finira par arriver à Jérusalem, c'est Jérusalem. Ouais. Israël, Jérusalem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent avec Jérusalem? Ils ont des superficies énormes, qu'ils sont perdus là-bas. Parce que c'est le centre du monde, c'est la réalité. Et si un juif, il ne le sait pas, le goy, il va lui rappeler. Hein? Ils ont quoi?
Ils ont bloqué la bouffe, là, ce soir. Ils n'ont plus à manger.
À qui?
À Gaza.
Ah bon, c'est que Dieu les aide. Écoutez, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait quelques années que j'ai remarqué que toujours, dès que ça approche les 9 jours,
il y a toujours un balagan.
Il y a toujours un balagan là-bas.
Ah ouais.
Regardez l'actualité, l'année dernière, il y a 2 ans, 3 ans, toujours autour des 9 jours, il y a toujours la pagaille là-bas. C'est une période dans laquelle il faut faire profil bas et il faut attendre ça pas si tu veux. Mais si vous voulez, c'est une période de mauvaise pour nous. Si tu veux qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles, on n'aura que de bonnes nouvelles.
Que je lui dis à midi, s'ils ne bougent pas en Israël sur Gaza, c'est qu'à cause de nous, parce qu'on est en exil, nous on est loin, et ils veulent nous sauver notre vie à nous.
Non, ça, on n'a pas le droit de parler comme ça. On n'a pas le droit de parler comme ça, Joseph. Rien à voir. Pas parler comme ça.
J'ai entendu de l'information. C'est un Israélien qui parlait comme ça. Hein.
Le même Dieu qui protège les Juifs en Israël, il les protège ici en dehors d'Israël. Oui. Il est partout, Hachem.
On a peur des attentats ici. Hein.
Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va.
On va perdre la Coupe du Monde.
Dans la Coupe du Monde, ils sont calmés. Les derniers attentats, ils n'ont pas attendu des Juifs, ils ont attendu des Goyons. À Nice, c'était pas les Juifs, non?
Il y avait des Juifs.
D'accord, il y avait, mais.
Vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est Roland, il a dit. Le
Bataclan, c'était pas la cible, donc.
On peut mourir tranquille. Bon, le plus tard possible, mais.
Il est mort 10 ans après.
Faut parler.
Il est mort 10 ans après.
Aujourd'hui, okay, aujourd'hui, il faut une grande fête en France.
Rabotai, on continue. Rabotai, on ne va pas parler de ça.
Alors, le Veldiv aujourd'hui.
On continue.
Il y a
Roland. Alors, Roland. Allez, Rabotai. On continue.
Alors,
402.
On les fêtes.
Velachen, c'est pour cela. Nikra M. Abanim, je suis à la page 402, deuxième paragraphe. Velachen, c'est pour cela. Nikra M. Abanim. C'est pour ça que la Shrina est appelée, dans la Kabbalah, la maman des enfants. Très bizarre comme terme, on l'appelle la maman des enfants. Pourquoi on l'appelle la maman des enfants? Au Knesset Israël, Alors, je vais expliquer en termes un peu plus clairs ce qu'il dit ici dans les termes de Kabbalah. Il dit en fait, la Shrina c'est comme une maman. Cette maman a des enfants. C'est quoi les enfants? Ces enfants, c'est la présence divine que tu vois dans le monde. Ça veut dire, tu vois, c'est à Jérusalem, on voit ça, on voit des petits enfants ici, dans les synagogues, etc. Mais le quartier général, c'est le Beth Amigdash. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas tourner. On ne peut pas en faire l'économie. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il suffit de voir la réalité. Combien de mitzvot nous avons? 613. Est-ce que vous savez, sur les 613 de mitzvot, combien de mitzvot on peut accomplir aujourd'hui? Au maximum. Donnez un chiffre.
280, 240.
207.
Les autres, c'est tout.
Enfin, en Israël.
Non.
On n'a pas le temps.
Je parle même en Israël. Même celui qui est en Israël, qui est Cohen, qui est roi, qui est tout ce que tu veux. Qui s'est marié, qui a divorcé, qui a tout fait, qui a tout fait. Toutes les options. Même celui qui a fait toutes les hypothèses. Le maximum que tu peux faire. D'accord. 207. Il n'y a pas de mise à divorcer. La mitzvah, c'est si on divorce, il faut le faire comme il faut. D'accord. C'est mitzvah.
C'est
mitzvah.
Hein.
C'est des mitzvahs qui sont liés au temple. Qui sont liés au temple ou dépendantes du temple. Dépendantes de la royauté, dépendantes du temple, dépendantes du Kohen, dépendantes du Lévi, dépendantes du roi, dépendantes de la pureté, dépendantes de ci. Dans les faits, 207. Imagine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on comprend clairement que notre quartier général, c'est le Beth Amikdash. Et c'est quand même étonnant parce que on connaît des peuples dans le monde qui ont eu des temples. Ils ont eu des temples. Partout, tout le monde a eu des temples. Dans toutes les civilisations, il y a eu des temples. Mais ça a tenu quelques siècles. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Vous connaissez-vous un autre peuple dans le monde qui ont dit on va reconstruire notre temple? Pas du tout. Ils disent, on va faire des équipes, on va faire ci, on va faire ça, ils n'ont rien à faire de temple, quel temple. Nous, on est le seul peuple qui est là 2000 ans après à reparler d'un temple à Jérusalem. Pourquoi tu parles de ce temple? Qu'est-ce que tu as avec ce temple? Tu as un pays, tu as fait un pays, mais qu'est-ce que tu parles de ce temple? Parce que ce temple, c'est le centre du monde. Tu n'as pas ce temple, tu n'as pas les mitzvot. Tu n'as pas ce temple, tu n'as pas la présence d'Akadosh Baruch Hu effective dans le monde. Il n'y a rien à faire. C'est incontournable. On a besoin du Beit Hamikdash. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait les choses. Le Beit Hamikdash est comme le cerveau. Tu ne peux pas faire l'économie d'un cerveau. Ce n'est pas possible. Tu peux essayer de tenir un petit peu, etc. Tu ne peux pas faire l'économie. Tu n'as pas de cerveau, ça ne marche pas. Ok. Maintenant, il dit la chose suivante. Alors. Oui, ok. On va sauter le crochet. Hein?
Ouais, il continue.
Il vient de tout chez nous là.
Ah, il rentre.
Non, il continue. Il continue.
Là, continue. Je sais pas.
Alors, ils peuvent klaxonner gratuitement là.
Il leur reste encore des klaxons, ils vont les casser les klaxons. Vous savez que ça, c'est un klaxon, ça s'abîme avec le temps. Ok. Alors on continue. On va prendre maintenant à Vezeu Echal Kodesh Kodashim. On va sauter. On va prendre la page 405. Au milieu de la page. Donc là, en fait, ce qu'il explique, c'est que dans chaque sphère, lorsque Kadosh Baruch Hu descend, dans chaque sphère, nous avons un quartier général, toujours dans lequel ce quartier général est le centre névralgique du monde, de ce monde dans lequel Kadosh Baruch Hu se dévoile. Vous savez qu'il y a plusieurs mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, plusieurs dimensions dans lesquelles Akadosh Baruch Hu. Et dans chaque dimension, il y a toujours un centre névralgique dans lequel Akadosh Baruch Hu descend. Et comment s'appelle ce centre névralgique? C'est là où je voulais arriver. Vezeu Echal, vous avez la page 405? Vezeu Echal, Kodshe Kodashim, Shebechol, Olam, Veolam. Ça, c'est le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, qui se trouve dans chaque monde. Alors, je vais expliquer ce qu'il veut dire ici pour que vous compreniez de quoi il parle. Je dis comme ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu, vous êtes avec moi, c'est bon? Lorsque Akadosh Baruch Hu crée le monde, comment ça se passe? Quatre dimensions. Regardez-moi, quatre. Quatre, hein? Si vous dites quelque chose, le chiffre quatre? Quatre, quatre, c'est bon? Alors, c'est bien, alors. C'est bon, essayez de les réveiller un peu.
Quatre, deux, ça
rien à faire.
Ça vous rappelle.
Ils ont oublié la Coupe du Monde déjà, allez.
On a oublié.
Hein? J'essaie de les réveiller un peu, là. Ils sont dans les smartphones ou dans les rêves. Ils ont la tête dans les étoiles.
Oui.
Alors.
Il en manque deux.
Hein?
Il en manque deux.
Bon, je reprends. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ok. Tout d'abord, Akadosh Baruch Hu va créer quatre mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ok. Le monde de l'émanation, le monde de la formation, d'accord. Donc le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Nous, la dimension dans laquelle on est, c'est la quatrième, le monde de l'action. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit ici. Il dit dans chacune de ces quatre sphères, dans chacun de ces quatre mondes, il y a toujours le même système, le même mode opératoire. Tu as une énergie abstraite, un quartier général qui se détaille. Et après, on passe en dessous. Dans chaque olam. Par exemple, prenez le olam Atzilut, le quartier général, c'est le Gan Eden. Tac, Gan Eden, c'est le quartier général, c'est le saint des saints de olam Atzilut. Et tu descends. Et dans chaque monde, il faut toujours ces trois étapes. Un, deux, trois. Incontournable. Obligé. Maintenant, la question est comme ça. Atzilut, on sait ce que c'est. Bria, on sait ce que c'est. On sait, on a compris, il y a le Gan Eden, tout ce que tu veux. La question est, quand tu arrives à Asiya, notre monde, dans notre monde ici, dans le monde physique qu'on touche, quel est le quartier général d'Hachem? Ça, c'est la question. Quel est le saint des saints d'Hachem? Là, on ne peut plus parler de Gan Eden. Le Gan Eden, c'était dans le monde 1, dans le monde 2, dans le monde 3. Mais dans le monde 4, il n'y a plus de Gan Eden. On est ici-bas sur Terre maintenant. Et ici-bas sur Terre, il me faut l'étape numéro 2. Dieu, il est abstrait. Comment tu le concrétises? L'étape numéro 2, le saint des saints, c'est le Kodesh Kodeshim physique dans lequel on a vécu. Et ça explique plein de choses. Ça explique, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a demandé de lui construire une bâtisse physique, matérielle, et qui est même extravagante. Je ne sais pas si vous, ceux qui étaient là la semaine dernière, on a vu des descriptions, enfin on a vu des représentations 3D, etc. Tu vois le faste dans lequel on construit l'extravagance, dans lequel on a construit. Hein? Quoi? Hein?
Attends encore. Il y aura un replay.
Tu veux, est-ce que tu veux un replay de la finale?
Il faut payer les droits
à la FIFA Rabat.
C'est bien beau de donner des horaires. J'ai une question. Quand on peut pas, il y a toujours vraiment un rattrapage.
Ça, il faut voir, Tout, ça se négocie. Il faut être abonné à des chaînes spéciales pour ça. Hein, David, pour ça, il faut être abonné à des chaînes spéciales.
Il est contre moi, celui-là. C'est pas Bein Sport, hein, c'est Bnei Sport.
Bnei Israël.
Israël.
Ouais. Alors attendez deux secondes. Je termine le raisonnement. On a vu l'extravagance dans laquelle on a construit. Bon, je peux vous dire, c'est l'or, l'argent, c'est extraordinaire. Et tu dis, c'est la maison de Dieu. Quand tu vois ça, tu dis, mais je comprends pas. Pourquoi Dieu, pour construire sa maison, il a besoin d'une maison matérialiste? Moi, je m'attendais à une maison tout en blanc, tu vois, le plus abstrait possible, le plus simple possible, tu vois, rien, juste un coup de peinture, plus simple, tu vois, rien. Et tu vois de l'or, de l'argent, des ustensiles. Vous savez, au Beth Amikdash, même l'ustensile avec lequel on donnait à boire à l'animal avant de lui faire la shrita. Parce que vous savez, l'animal, avant de faire la shrita, on lui donnait à boire. De l'eau, pour dilater sa peau. Et on dit que l'ustensile qu'on utilisait pour donner à boire à l'animal,
de l'or.
Un ustensile en or. La Gemara dit pourquoi? Prends un ustensile en or. Je veux bien un ustensile en or pour le Kohen, etc. Mais là, c'est un animal. La Gemara dit comme ça. La Gemara dit, parce qu'il n'y a pas de pauvreté dans un endroit de richesse. C'est comme ça. Tu comprends? On va donner un exemple pour Serge. Tu ouvres le capot d'une Ferrari. Tout est classe. Tu comprends? Mais tu dis, mais qu'est-ce que ça change? C'est sous le capot! Il n'y a pas sous le capot. Même si tu démontes tout, la dernière pièce, elle brille.
Même le boulon,
il est en or. Pourtant, on ne voit pas. Il n'y a pas de pauvreté dans un endroit de richesse. Tu es d'accord avec ça? Eh ben, c'est la même chose. Maintenant, on va parler de Beth Amikdash. Bien sûr.
Il y a des connexions. Il y a des platines.
Il n'y a pas. Ça veut dire Adassov. Tu comprends? Du costume au sous-vêtement. Jusqu'aux chaussettes, jusqu'au tout.
Grand luxe.
Il n'y a pas de pauvreté ici. Pourquoi? Alors ça complique les choses. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, pour sa demeure, pour sa maison, il a besoin d'une maison matérialiste? C'est quoi la réponse? Parce que à Kadosh Baruch Hu, dans chaque sphère, il a son quartier général. Le quartier général du Gan Eden, t'inquiète pas, il est abstrait, tout ce que tu veux. Mais quand tu arrives dans le Olam Hazeh, dans ce monde-ci, il te fait un quartier général qui parle dans des codes de ce monde-ci. Eh oui. Et dans les codes de ce monde-ci, l'or et l'argent, on connaît. Donc quand tu prends l'or, l'argent, tout ce que tu as, et tu le donnes pour Hachem, tu utilises des codes de ce monde, et tu montres que même dans ce monde, on peut servir à Kadosh Baruch Hu avec l'or et l'argent. Ça, c'est le quartier général d'Hachem. Et c'est pour ça que dans le quartier général d'Hachem, on prend volontairement du matériel, et on crée. Et on fait une maison pour Hachem. Il y a un mot très fort de la Gemara. La Gemara dit que l'or n'a été créé que pour le Beth Amikdash.
Uniquement.
Oui. La Gemara a dit, pourtant, on voit que concrètement... arrête, t'as qu'à coupe du monde, toi, ça y est. Allez, ça suffit.
Combien de kilos
il pèse?
Elle pèse 7 kilos.
Tu sais combien de kilos? Alors, je vais te dire. Tu sais de combien de kilos on parle dans le Beth Amikdash?
De tonnes.
On parle en tonnes d'or dans le Beth Amikdash. Tous les murs recouverts d'or. Les murs recouverts d'or, les ustensiles en or massif. On te parle de plusieurs dizaines de tonnes d'or.
La menorah.
C'est plus.
C'est énorme. Ah mais c'est énorme. On n'a même pas idée. J'avais fait une fois. J'ai pas les chiffres maintenant. Je les aurais préparés. Mais on avait fait une fois un cours sur ça. Ça fait 2 ans. Et j'avais fait le calcul. On arrive à des chiffres énorme. Ouais. On sait pas d'où vous avez tout cet argent. Ben on le sait d'où vous avez, ils sont d'Égypte, vous savez. Hein?
À propos, il y a un boulanger, il a fait un pain rond.
En or.
Non, un pain rond.
D'accord.
Un sirop.
Bon.
Voilà.
Alors je reprends. Pourquoi l'or a été créé pour le Beth Amikdash? La Gemara pose la question. La Gemara dit pourtant on voit que les goyim ils utilisent aussi l'or pour leur temple. et pour leur Coupe du Monde. D'accord? Alors voilà. Et la Gemara dit comme ça. Donc dans ce cas-là, pourquoi tu dis qu'Hachemi l'a créé pour le Batamikdash? La majorité de l'or du monde n'est pas utilisée pour le Batamikdash, c'est utilisé pour le reste. Quelle est la réponse de la Gemara? La Gemara dit, est-ce que Akadosh Baruch Hu va détruire son monde à cause des imbéciles? Réponse de la Gemara. S'il y a des imbéciles qui veulent utiliser l'or pour construire leur temple, qu'ils le fassent. Comme le soleil, tu veux éclairer une poubelle. Mais nous, on sait que la vraie raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé l'or, c'est pour le Beth Amikdash.
C'est qui la star de ces cinq mondes?
Hein?
C'est Asiya.
Bien sûr. C'est là qu'on finalise tout.
La star, c'est toi la star.
C'est la finale. C'est la finale.
Mais Dieu, il se déplace pas avec sa roulotte, avec sa
maison. Ah, David, il lui parle ça. C'est la finale. Asiya, c'est la finale.
Une banque, s'il se déplace.
C'est la deuxième étoile.
Bah oui, c'est la finale. Tu t'as fait. Il a tout fait. T'es descendu 1-2, et il a raté. Il arrive à la finale. Tu rentres chez toi, bredouille.
Comme dans les jeux électroniques, vous passez chaque monde.
Bien sûr. 1, 2, 3, 4.
Comment il se déplace avec sa résidence principale, Dieu, quand il se déplace? Donc là, il va venir avec sa propre résidence, puisqu'on l'a détruit deux fois.
Non,
là, pour le coup, il va la construire à sa manière.
Mais le problème, c'est qu'on expliquait comme ça. Dans chaque sphère,
il a un endroit pour
à Kadosh Baruch Hu, il lui faut les trois étapes. Première étape, abstraction. Deuxième étape, quartier général. Troisième étape, dispatcher dans chaque zone. Et dans chacune des quatre sphères, il doit utiliser les codes de l'endroit. Donc dans le monde d'Atsilut, il utilise les codes de là-bas. Mais dès qu'il arrive dans le monde de l'action, il faut utiliser nos codes. Nos codes, nous on connaît l'or et l'argent, ça on connaît. Hachem, il n'y a pas de problème. Je vous amène l'or et l'argent, et dans ça je vous fais le Batamikdash. C'est avec ça je vous fais le Batamikdash. Abstraction, abstrait. Deuxième étape, carte générale. Troisième étape, d'accord, on dispatch.
Hein, quand vous dites abstraction, c'est
oui. Timtsoum, ça veut dire c'est y a rien.
Voilà. Tiens la lumière, tu veux dire.
Contraction. Oui, abstraction, ça veut dire c'est un moment dans lequel tout est abstrait, c'est pas défini. Ouais. Première étape indéfini, deuxième étape carte générale, troisième étape en dispatch. Et là, c'est gagné. Ouais. D'accord.
Et après, il ramène là pour construire.
Hein?
Attends,
on a du travail.
Attends,
mais je vais vous dire, nous on se dit, mais comment on va changer le monde? On se dit, le monde est tellement loin, comment on va réussir à changer le monde? D'accord? Alors je vais vous dire quelque chose. Je m'excuse de cet exemple, mais c'est comme si vous avez dû présenter une personne qui est dans le coma. Son cerveau ne fonctionne pas comme il faut. Ok? Il fonctionne pas. Donc du coup, il marche pas, du coup, il parle pas, du coup, il voit pas, du coup, il entend pas comme il devrait entendre, etc. Et tu dis, mais comment il retrouvera tout? Il y a rien ici. Il parle pas, etc. On te dit, il y a un élément qui peut tout changer. Dès qu'il récupère le cerveau, il peut repartir. Dans l'espoir que c'est pas parti trop loin. Ça veut dire que si tu récupères le cerveau, tu récupères tout. C'est de la même façon. Les gens ils disent, mais comment on va changer le monde? On est d'abord, t'as la majorité du peuple juif qui est loin de la Torah, le monde il est à côté de la plaque, etc. Chacun, comment tu récupères? Parce qu'aujourd'hui, en vérité, on a une situation dans laquelle le cerveau il est endormi. Le Beth Amikdash il est endormi. Dès que tu récupères le cerveau, c'est dans un autre monde. Et ça va très très vite. C'est comme une personne qui se réveille d'un coma. Tout d'un coup, bah, il recommence à voir, il recommence à entendre, il recommence à parler, il recommence à manger, comme tout. Rééducation, mais il repart. C'est la même chose. Donc là, maintenant, c'est ce qu'on attend. Le Beth Amikdash, si vous voulez, c'est le réveil. Le réveil, tchac, le cerveau qui repart. Ça, on l'a pas pour l'instant. Alors, Vezeu echal, comme moi, je suis tout, Bezor Vetzraim, Shashrinash imalchut d'Atsilut. Je tourne la page. On saute le crochet. Troisième paragraphe. 406. Imit la bechet be'echal kotche kodashin debria, sheu chabat debria. Alors, maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans chacune de ces quatre sphères. Atsilut, Bria, Yetira, Asiya. Atsilut, il ne dit pas. Il ne dit pas quel est le quartier général de Atsilut. On va supposer que c'est une sorte de Gan Eden, mais il ne dit pas. Par contre, Bria, la deuxième phase, nous on est à la quatrième. La deuxième phase, le monde de la création, là il explique. Il dit le quartier général du monde de Bria, c'est les anges. Les Malachim, c'est le quartier général. C'est là que tout se passe. Vegam, Misham, Atalmut, Shelefanenu. Je vais aller plus loin maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que de chacune de ces quatre sphères va avoir une autre partie de la Torah qui va être développée. D'accord? Et je vais vous dire chacune à quoi elle correspond. L'étape 1, je ne la connais pas. Il ne dit pas. L'étape 1, c'est un monde très très grand, Sadikim, on ne connaît pas. L'étape 2, je la connais, ça, il l'a dit. L'étape 2, ça s'appelle le monde de Bria. Et dans cette étape 2, c'est quoi le quartier général de cette étape 2 ? Les anges. Et de là-bas va être généré le Talmud, la Gemara. C'est-à-dire que tout l'aspect Gemara, ça vient de l'étape 2.
Ils impriment là-bas.
C'est là-bas que ça a été conceptualisé. Et après, c'est descendu en bas.
Gutenberg.
Ça n'a pas été fait dans le 4, ça a été fait dans le 2. Ça vient du 2. C'est ce que dit le Zohar, ça. Vegam nimshach misham a Talmud shel fanenu.
C'est les anges qui les ont envoyés.
Non, ah, ça veut dire.
Par
ça passe, ça, après voix, ça descend. Comme moi, chez Nidber, les Elbe, chez Matikounim, chez Beolam, Abria, Meirot, Mashpiot, Sham, Chochmato, Ubinato, Vedato, chez Lansavaro, Prinat, Tsum, Atsum, Birde, chez Yuchlu, Aneshamot, Vamalachi, Shambalekvul, Vetachlit, Lekabel, Ashpaam, Prinat, Chabad, Ebo. Ok. Pourquoi on parle du Talmud? C'est quoi le Talmud? C'est quoi le Talmud? Comment vous voyez le Talmud? C'est quoi le Talmud pour vous?
Mishnah,
attends, hein. Dites-moi, donnez-moi une définition. C'est quoi le Talmud? À quoi sert le Talmud?
Quoi,
Yves?
À comprendre.
À quoi sert?
Avec moi?
Notre,
alors, à quoi sert le Talmud?
Le code de la route.
Hein?
Non, notre code.
C'est la livre. Le Talmud. Le Talmud.
Enseignement.
C'est comment Hachette fonctionne.
C'est l'ADN.
Réfléchis comment.
Le Talmud, Razak, c'est quoi? Il y en a 2-0.
Alors j'en ai marqué des buts.
Champion du monde.
Champion du monde.
À 2-0, c'est 2-1 la mi-temps.
À la vérité, si je mens.
C'est quoi le Talmud?
T'as pas
dit que j'explose.
T'as pas
raconté,
c'est extraordinaire.
Il est en forme, lui. Hein.
Il a arrêté quelqu'un dans la rue,
ça, Quoi?
Il a dit, monsieur, faut pas pisser. J'ai eu des échos.
Ah, t'as eu?
Quelqu'un qui faisait le fou dans la rue, il l'a arrêté. Il me dit, papier, s'il vous plaît.
Cohen, il a ses deux étoiles.
C'est un excès de Mbappé, il lui a dit.
C'est de support à deux. Mbappé.
Il a deux étoiles, Cohen, ce soir.
Ah, là qu'ils avaient peur.
Vous faites bien en plus.
Ah, ça fait
bien. Babou, il est
avec un air sérieux et tout. Ouais.
Faut pas piller.
Police nationale. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous venez de jeter une canette là par terre sur la voie de la chaussée là. Oui, mais j'ai mis un coup de pied dedans. Utilisez un ballon la prochaine fois, pas une canette.
Je vois qu'il y en a qui sont amusés hier soir.
Oui, oui, c'est pas vrai.
Bon, on continue. Alors, le Talmud, c'est quoi le Talmud?
Qu'est-ce qu'il a dit?
Le Talmud, répétez ce que vous avez dit.
C'est la façon dont Hachem fonctionne pour... c'est un peu comme le raisonnement d'Hachem.
C'est le raisonnement d'Hachem.
Voilà.
Vous savez que tout est écrit dans le Talmud. Tout est écrit dans la Gemara. C'est la sagesse d'Hachem. Le développement de la sagesse d'Hachem. Voilà. Maintenant, c'est un niveau. On verra après qu'il y a le niveau 3 et le niveau 4. Et des gens qui n'arrivent pas à étudier le Talmud. Aujourd'hui, quoi?
Tu peux savoir la sagesse d'Hachem.
Oui, le Talmud a été fait sur la base de la sagesse d'Hachem. Quand tu vas des tzadikim, tu vas voir des tzadikim, tu leur demandes une bracha. Je me lance dans l'affaire ou je me lance pas? D'accord? Qu'est-ce que la Torah pense de ça? Je me lance, je me lance pas. D'où va voir le tzadik? Où c'est écrit? Tout est écrit dans la Torah. Il n'y a rien qui n'est pas écrit dans la Torah.
Même avant le tzadik.
Tout.
Le Tanya nous le répète tous les jours.
Ouais, c'est après,
tout est écrit dans la Torah. Maintenant, il faut savoir la lire, la Torah. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut trouver la bonne fenêtre. Mais tout est dans la Torah. Tout est dans la Torah.
Bossé.
Eh oui. Je continue. Donc, Velachen Nimshar Misham Talmud Gamken Prinat Rabad. Alors, je suis à la page. La page 407. C'est bon? 407. Hein. Alors. Hein, c'est bon? Velachen Nimshar Misham Talmud Sheu Gamken Prinat Rabad Shea Talmud Utaame Alachot Alborian. Le Talmud, c'est quoi? Le Talmud, c'est les raisons de la Torah. C'est l'intellect de la Torah. Ça, tu le trouves dans la phase 2. Ve'alachot atzman, en midotav shel Ein Sof Baruch Hu. Maintenant, les alachot du Talmud, d'où elles viennent, dans chaque sphère, tu as les midot d'Hachem, les attributs, les traits de caractère d'Hachem. La bonté, la rigueur. La bonté, ça correspond aux mitzvot. À ce qui est autorisé, la rigueur, ça correspond à ce qui est interdit. Tout vient de l'étape 2. C'est là-bas que vient le Talmud. Je dis pas ça pour vous compliquer. Je m'attends pas que vous allez entrer chez vous ce soir, vous allez dire, bon, alors on va se rappeler le premier but, le deuxième but, le troisième but, le quatrième but. C'est pas mon but. C'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre, le but ici, c'est de comprendre qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard par Akadosh Baruch Hu, et que dans chaque sphère, il y a un quartier général. Et que notre quartier général, c'est quoi? Notre quartier général, c'est Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, Jérusalem, le Mont du Temple. C'est là-bas que ça se passe. C'est pas les Champs-Élysées. C'est là-bas. Hein? Je veux partir, mais il n'y a rien. On a la Shrina, mais il n'y a pas la bâtisse. C'est là-bas que ça se passe. Écoutez, pour ceux qui vont en Israël, en vacances, ça serait quand même un blasphème d'aller en Israël et de ne pas faire un séjour, de ne pas passer au moins une fois au côté.
Là-bas.
Oui. Honteux. Et c'est comme un touriste qui viendra à Paris qui n'irait pas aux Champs-Élysées. C'est pas possible.
Exactement.
Il a raté l'essentiel. Alors nous, la ville, on te parle du Beth Amikdash. On peut pas être là. Il est parti, il a fait la plage, il a tout fait, il a pas fait l'essentiel. Bon, la plage, t'as fait la plage. Non, mais ça serait. Non, je m'excuse d'être explicite. Mais ça serait grave d'aller en Israël et que finalement vos enfants vont retenir que c'est quoi Israël ? C'est un lieu touristique. C'est la plage. Tu vas à la plage, va en Croatie pour la plage.
Non. On peut t'en les abattre. Là, on est mal vu. On serait très mal vu.
Il y a une plage là-bas.
Voilà ce qu'on va retenir du coup ce soir.
La plage de Croatie.
Bon, alors non.
David.
Maintenant, d'un autre côté, tu vas dire, je vais aller en Israël, on va faire tourner l'économie israélienne, c'est très bien. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier non plus que c'est une terre kadosh. Donc au moins, occupe une partie de ton emploi du temps. On dit, bon, aujourd'hui, on va aller à Jérusalem. On va passer un jour à Jérusalem. On va voir le temple avec les enfants. On va montrer. C'est important. Très important. Et même s'ils tirent un peu du pied les enfants, on leur explique que c'est important. Les enfants, ils disent, bon, papa et maman, allez-y, et nous, on va s'occuper. D'accord? Alors après, papa, il me dit, on va pas laisser les enfants. Donc, du coup, personne n'y va. Non, c'est pas bon, ça. Ça, il faut dès le départ prévoir. C'est le centre du monde. Le quartier général du monde. C'est pas possible, on peut pas ne pas aller à Jérusalem.
C'est comme quand on va à New York.
Quoi?
On va
à Manhattan.
Exactement.
Après, on va acheter les Converse.
Après l'aéroport, on va directement au
Après, on va à Brooklyn.
Ok. Alors, chez Mehem, Nusha, Vahriba, Pat. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà, ce que je veux qu'on retienne, a priori, il y aura cours lundi soir prochain. S'il n'y a pas, je vous tiens au courant, mais a priori, il y aura cours lundi soir prochain. Ce sera le dernier cours de la saison. Et j'ai envie de terminer le chapitre 52. Attendez, vous savez quoi,
hein? Beaucoup après,
hein. Combien il reste?
Il reste 2 pages.
Bon, alors, vous les avez 5 minutes encore? Allez, comme ça, on y va.
Il reste 3 pages.
Allez, on y va.
Toute la nuit, nous n'avons pas de compte sorti.
On
veut
savoir surtout ce qu'il faut.
Qu'est-ce qui se passe? Moi je me suis dit ça y est, dimanche c'est fini, on va nous laisser tranquille.
Quand on n'a pas le nouveau maillot.
Ah, après tu vas venir avec le maillot après.
Cette semaine.
On les rebond, tu vas.
Ah, bah, la reprise du championnat bientôt.
Allez. Obey clap shoot. Donc Atzilut, Beria, Yetzira. D'accord. Page 408. Obey clap shoot. Obey clap shoot. Malchut de Atzilut, Malchut de Beria. Miklabeshet Bechal, Kotche Koshim de Yetzira, Shuchabat de Yetzira. Donc on était à l'étape 2. Étape 1, on la connaît pas. Étape 2, on a dit le Talmud, les anges. De l'étape 2 va commencer l'étape 3. Qu'est-ce qui se passe à l'étape 3? Lorsqu'on va descendre dans l'étape 3, là on va créer Ruchot. C'est quoi Ruchot? C'est les esprits. Là on commence les âmes. Neshamot. Et, il va expliquer tout de suite. Ve'amalachim shebiyitzira. Il y a aussi des anges qui sont là-bas, des anges de second niveau, qui sont à l'étape 3. Ve'gam et aussi, page 409, ve'gam et aussi. Misham i amishna shelefanenu. C'est de là-bas que va venir la Mishnah. Curieusement, les gens pensent que la Mishnah est plus élevée que la Gemara. Alors que c'est faux.
Non, ça fait
très... La Gemara, le Talmud, a une source plus élevée que la Mishnah. Puisque dans les sphères célestes, alors je vous le dire, en vérité, l'étape 1, là-bas vous avez le Zohar. L'étape 1, vous avez le Zohar. Vous avez les secrets de la Torah. Étape 2, là-bas on comprend rien. Atzilut. Là-bas c'est vous avez le Zohar, vous avez toutes les sphères célestes. Étape 2, c'est le Talmud. Le Talmud et les anges. Étape 3, vous avez la Mishnah. Et donc, les Neshamot et quelques malachim de second niveau.
Oui, mais je comprends pas.
Oui.
La Mishnah, c'est inclus dans la...
Oui, je sais. Mais ça veut dire que le développement du Talmud, ça vient de l'étape 2. La Mishnah, c'est la Lacha, c'est ce que je fais, ce que je fais pas. Ça, c'est déjà plus technique. Mishnah. Rak, Sheprinat, Rabat, Shem Tamalachot, Emnu Bashim, Vegnuzim, Begoufé, Alachot et le Prinat Dilouy. La différence, c'est Razak 3-0. La différence entre la Mishnah et la...
Il a 3-4,
ça c'est... Je vous présente.
On a gagné 4-3.
C'était 90. Moi, je m'étais marqué déjà il y a 20 ans.
4-3, non.
Même si le ramène avec 10 mains, on s'en
plus. Aïe, il nous a marqué, là, c'est neuf.
10 mains, on s'en plus.
Quoi?
10 mains, on s'en plus.
C'est encore le travail. C'est pas de ma faute, il marque. Alors, Rach.
On va se coudre tous.
T'as fait des pizzas aujourd'hui,
hein? Pour reprendre un mandat vite à vous.
T'as fait des marques, t'as fait des pizzas.
Vas-y, te balaye. Déjà, il est pas venu avec un maillot bleu, c'est déjà... Il perd. Rach, chez Prinat, Chabad, chez Mtame à la Chote. La différence entre la Mishnah et la Gemara, c'est quoi? C'est que dans la Mishnah, les raisons sont cachées. Alors que dans la Gemara, les raisons sont dévoilées. La Mishnah, c'est la Halakha. On te dit ça tu fais pas. On t'explique pas pourquoi. Dans la Gemara, on t'explique. C'est pour ça que la Gemara est d'un niveau plus élevé que la Mishnah. Donc, 1, 2, 3. Ok. Maintenant, je tourne la page. כמו שכתוב ליל בשם התיקונים, דשית צפירה מקלים ביצירה, שהם דרך כלל שני קווים ימין ושמאל. להקל מסתכה דחסד, היינו להציע שאולי את השם ולהחמיר. אוקיי, ג'קספליק. ידי, סקיספס מתנן, סקו, להלך, אפחי, דנשק ספר, תשויה לקוטי דרוע, לקוטי גוש. לבונטה, לריגר. לבונטה זה למצוות פוזיטיב, לריגר זה למצוות נגטיב. לבונטה זה לקוטי פרמיסיף, דרך חמים. La rigueur, c'est le côté interdit. Et ça, c'est-à-dire que tout vient de là. Pourquoi, comment ça se fait que tu ouvres une Gemara, t'as Bethile qui dit ça, Bethshama qui dit ça, hein, il interdit le type permis. Parce que dès le départ, dans la source de leur Neshama, à l'étape 2 ou à l'étape 3, déjà là-bas, t'avais un qui était plutôt d'un côté de bonté, donc c'est pour ça qu'il y a un côté permissif, et un autre qui était plutôt d'un côté de rigueur, c'est pour ça qu'il y a un côté plus rigoureux. Tout vient de là-bas. Maintenant, nous, maintenant, si vous voulez, on profite du produit final. Nous, on est étape 4. Et étape 4, on reçoit un produit final. On dit, ah, je comprends, il y a un Beth Shammai, un Beth Hillel qui dit comme ça. On dit, ce que t'as pas compris, c'est que le jeu de Beth Hillel et Beth Shammai, il s'est pas fait ici. Il s'est déjà fait en haut. Il s'est déjà fait étape 2, étape 3. Étape 4, c'est déjà tout prêt. On te présente un produit tout prêt. On te dit, bon, voilà, il y a une Gemara. Un tel a dit ça, un tel a dit ça. Mais le produit, il est déjà fini. T'es en étape 4. Qu'est-ce qui se passe en étape 4? Étape 4, ce qui se passe, c'est le Beth Amigdash. On fait descendre la Torah à notre portée, et c'est le Beth Amikdash. Et c'est ce qu'il dit ici. Je passe à la page 411. Vechen bederze, yarda ashrina, de la même façon la shrina est descendue, venit lapcha be echal kotche kodashim de asiya, et la shrina, c'est revêtue, elle est descendue dans le palais du Saint des Saints d'Asiya. Et c'est quoi le palais du Saint des Saints d'Asiya? Kodesh à Kodashim, Jérusalem, le mont du Temple. En fait, si vous voulez, on peut faire un zoom. Quand on fait la prière, on se dirige vers où?
Vers l'Est.
On se dirige vers la terre d'Israël.
Oui.
En Israël même, il se dirige vers où?
Vers
Jérusalem. À Jérusalem, il se dirige vers où? Vers le mont du Temple. Au mont du Temple, il se dirige où? Vers le Saint des Saints. Au Saint des Saints, déjà, vers la bâtisse du Beth Amikdash. Dans la bâtisse du Beth Amikdash, il se dirige vers où? Il se dirige vers l'Arche Sainte. C'est-à-dire que tout le monde, toutes les prières du monde entier, que tu sois en Argentine, que tu sois au Brésil, que tu sois où tu veux, d'accord? Toutes les prières sont dirigées vers la terre d'Israël, vers Jérusalem, vers le mont du Temple, vers le Temple, vers le Saint des Saints, vers la pierre angulaire, pac! Ça décolle. C'est là que ça décolle. C'est notre quartier général. Aujourd'hui encore. Et celui qui dit je connais pas, je dis mais vers où tu diriges pas ta prière? Tu diriges vers l'Est, pourquoi tu diriges vers l'Est? Stam comme ça? Pour faire beau? Parce que ta prière passe par là-bas. Ta prière passe par là-bas. C'est tout. Et ça c'est écrit dans le roi Salomon. Il dit Veit palelu elecha derech artsam. Ils prieront à toi Hachem derech artsam en passant par leur terre. C'est-à-dire que notre filette passe par le quartier général. Donc on comprend à quel point... Hein, c'est tellement important le Beth Amikdash et à quel point le Beth Amikdash est incontournable. Maintenant, je vais terminer en beauté. D'accord, parce que voilà, Mickaël, très bonne question. Là, il y a un, pas, il y a un. Y a... Alors maintenant, Mickaël pose une question. Il dit maintenant, bon, c'est bien beau, tu veux qu'on pleure maintenant?
Non.
On fait quoi?
On a l'apothéose, on fait l'artifice.
Ah, bah oui, on n'a pas le Beth Amikdash maintenant, on fait quoi? Dis l'Admorazaké, il te dit. Veiné, en bas de la page 411, Veiné, mais Ashrina, l'Ubeshebecha, Kotchakotchakolam, voilà, de la Shrina qui est habillée dans le saint des saints de chaque monde, Klaléopratin, Nimshach, Umit Pachet, Mimena, Or, Vechayut, Chola, Olam, Vabrum, Shebonisham, Atomalachim, Vechoulé. Tu dis, le saint des saints existe toujours. Ne crois pas qu'il n'existe pas. Toujours il existe. Seulement, des fois tu ne le vois pas, mais sache qu'il a une influence sur chaque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis en vie, Baruch HaShem, si on est en vie, si on étudie la Torah, si on fait tout ce qu'on fait, c'est grâce à quoi? D'accord?
J'ai pas eu 3 points là.
Ouais, t'es perdu les 3 points là.
Carton rouge, allez hop, carton rouge.
Carton rouge, carton rouge.
Pénalty pour lui.
Un péno.
Un péno, allez
hop. Et ben dans chaque monde, Rabotai, ça a une influence sur nous. Maintenant. Concrètement, on reste avec la question de Mickaël. Mickaël, d'accord, je veux bien, je comprends qu'on vit grâce à la Torah, on vit grâce au Saint des Saints, on le voit pas, mais il a une influence, et la Shrina n'a pas quitté sa place. Tachlès. Concrètement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors là, je vais vous donner la réponse. La réponse, on va expliquer dans le chapitre 53. Je sais pas si on fera la semaine prochaine ou à la rentrée, mais en tout cas, je vous donne la clé de la réponse. La clé de la réponse du chapitre 53, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné, même en exil, quelque chose par lequel on peut communiquer de façon similaire au Saint des Saints. C'est quoi?
Portable.
Non. L'étude, Rabotai, l'étude de la Halakha.
De la Halakha?
Oui. La Gemara dit comme ça. La Gemara dit que depuis que Dieu a détruit son Beth Amikdash, il ne lui reste dans son monde que 4 coudées de Halakha. C'est quoi 4 coudées de Halakha? Tu vas t'asseoir. Tu vas ouvrir un Shulchan Aruch, tu vas ouvrir un Kitsur Shulchan Aruch, et tu vas étudier l'Halakha. Quand tu étudies l'Halakha, tu fais descendre Dieu en toi.
Direct.
De façon concrète, pas de façon abstraite.
Et quand tu étudies la Torah. Or,
deux secondes, quel était l'objectif du quartier général, du Kodesh et Kodashim, on a expliqué tout à l'heure, c'est d'introduire la Shrina dans le monde. Maintenant, j'ai pas le Kodesh et Kodashim, je fais quoi? On te dit, à défaut de le faire dans le grand monde, fais-le dans le petit monde. Comment tu le fais? Ton Kodesh et Kodashim, c'est ton cœur. Est-ce que tu as fait descendre Dieu dans ton cœur? Comment tu fais descendre Dieu dans ton cœur? C'est très simple. Tu prends une halakha. Tu dis voilà ce que Dieu veut que je fasse. Voilà. Tac. Ça tu fais, ça tu fais pas. Ah mais je suis pas d'accord. Il y a pas de d'accord, t'es pas d'accord. Voilà ce que tu dois faire. Quand tu fais ce qu'il faut faire, quand tu fais la halakha, c'est ta façon de faire descendre Hachem dans le saint des saints de ton cœur. Évidemment, c'est que au plan individuel. Nous on veut le Beth Amikdash au plan collectif. C'est pour ça qu'on en deuil. Mais le Midrash dit comme ça. Plus de personnes auront construit leur temple individuel, et plus rapidement, on pourra construire le temple collectif. Akadosh Baruch Hu attend une profusion de temples individuels construits, qu'on le fait. Vous êtes venus maintenant ce soir, viens à cours de Torah. On construit. Tu respectes Shabbat. Tu construis. C'est des pierres. On construit notre temple personnel. Et plus tu construis ton temple personnel, et plus Akadosh Baruch Hu dit bon, c'est bon, j'ai maintenant plusieurs grands joueurs, qui ont fait leur d'accord à la cause, voilà et là je me dis maintenant on peut y aller, on envoie gros Beth Amikdash dans le monde entier bimera veyamenu avant le Shabbat.
Voilà.
Pas mal, ouais.
Calme-toi.
Amen. Bon.